il faudrait au moins que l'archevêque de Paris crût en Dieu. Phrase prêtée à Louis XVI à propos de Monseigneur Loménie de Brienne.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Les auditeurs habitués de Radio Présence connaissent bien Jean-Claude Jaffé, qui est un des chroniqueurs littéraires de la radio. Et Jean-Claude vient de sortir aux éditions Spinel une étude sur Loménie de Brienne, sous-titrée « Ministre du culte et des finances sous Louis XVI ». Ce prélat a été effectivement un personnage important, à la fois pour la ville de Toulouse, dont il a été l'archevêque, mais également pour la monarchie française à la fin de l'Ancien Régime. Et l'ouvrage de Jean-Claude Jaffé me donne l'occasion de vous proposer une chronique au sujet de Loménie de Brienne. Alors, ce prélat est né en 1727. Il est originaire du Limousin, où sa famille a des racines depuis au moins le XVe siècle. Et il fait des études à Paris, d'abord au collège d'Harcourt, qui est aujourd'hui le collège Saint-Louis, et puis ensuite en Sorbonne, où il va d'ailleurs faire la connaissance d'un des ministres importants du règne de Louis XVI, à savoir Turgot. Puis, il décide d'entrer dans les ordres. En 1751, il va soutenir une thèse qui sera d'ailleurs controversée, puisqu'il estime dans sa thèse que l'homme n'est pas spontanément tourné vers le divin. Et néanmoins, il obtient un titre de docteur en théologie. Puis, en 1752, il est nommé grand vicaire de l'archevêque de Rouen, Nicolas-Charles de Sceaux-Tavannes. Enfin, il va entamer, à partir de 1760, une carrière dans l'épiscopat du royaume. Il est fait évêque de Condom, dans l'actuel département du Gers, en 1760, et en 1763, il devient archevêque de Toulouse. En 1788, il obtiendra le titre d'archevêque de Sens. Mais Toulouse, il va y rester effectivement un long moment, un peu plus d'un quart de siècle, et il va fortement marquer la ville, l'urbanisme de la ville. Mais avant de parler de son action réformatrice en tant qu'archevêque de Toulouse, il y a eu un débat parmi les historiens pour savoir si Loménie de Brienne était véritablement un bon catholique. À savoir, est-ce qu'il était un prélat de cour, ambitieux, mais qui finalement avait un aspect peu pastoral. Au point d'ailleurs que l'on a prêté à plusieurs reprises, et ça se retrouve dans plusieurs ouvrages consacrés au règne de Louis XVI, la fameuse phrase du roi quand il a fallu trouver un remplaçant à Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, mort en 1781. Le Conseil de conscience avait évoqué la possibilité de nommer à Paris l'archevêque de Toulouse, et cette phrase qui serait sortie de la bouche royale, « Il faudrait au moins que l'archevêque de Paris crût en Dieu ». Donc la question du rapport à la foi de Loménie de Brienne avait donc été posée. Les avis divergent. Il est indéniable qu'il est un homme du XVIIIe siècle. Il lit les encyclopédistes, il est proche des réformateurs, il est proche de certains philosophes. Néanmoins, il est difficile d'en faire un total incroyant. Il est plutôt un homme qui a vu peut-être dans l'Église un moyen de faire carrière, mais sans avoir une fibre pastorale et une fibre digne de ce qu'on peut attendre normalement d'un prêtre et d'un évêque. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est un vrai réformateur. Il a essayé de moderniser en particulier la ville de Toulouse. Alors les Toulousains là verront exactement à quoi je fais allusion parce que aujourd'hui on peut se promener dans les œuvres de Monseigneur Loménie de Brienne. D'abord, il a entrepris, à partir de 1763, le canal qui porte son nom. Celui-ci devait effectivement être extrêmement utile puisque, partant du port de l'embouchure, Il permettait d'atteindre la Garonne et ainsi de permettre aux bateaux qui venaient par le canal du Midi de rejoindre les ports fluviaux à Saint-Pierre et à La Dorade. Le directeur des travaux a été Jean-Marie Saget et le canal a été inauguré en 1776. Aujourd'hui, on peut d'ailleurs en profiter pour s'y promener sur les bords, voire même profiter des péniches qui proposent des balades sur le canal et sur la Garonne. D'autre part, il va également aménager les berges du fleuve. Entre 1766 et 1780, il aménage le quai Saint-Pierre, le quai Lombard, aujourd'hui Lombard, et le quai de la Dorade, ce qui fait une certaine unité pendant plusieurs centaines de mètres le long de la Garonne. Il a pris également l'initiative de poursuivre l'aménagement de ce que l'on a appelé le Courdillon, de l'autre côté du fleuve, en bordure du quartier Saint-Cyprien. Les travaux, à vrai dire, avaient commencé dès le XVIIe siècle, mais Monseigneur Lomilbrienne a avancé finalement dans ces aménagements et le nom de Courdillon a été donné en 1806 à la mémoire de son prédécesseur à l'archevêché de Toulouse. Enfin, ne pas oublier non plus, sur le plan de l'aménagement de la ville, la fin des cimetières qui entouraient les paroisses. En effet, par une ordonnance de 1775, il interdit les inhumations de défunts dans et autour des églises toulousaines. Ce fut le cas, par exemple, dans le quartier Saint-Cyprien. Ce qui fait qu'il a fait faire un cimetière un peu en bordure de la ville de l'époque, c'est le cimetière où se trouve aujourd'hui l'église Saint-Aubin, et finalement, il a fallu attendre 1840 pour que l'on aménage le cimetière de Terre-Cabade parce que celui de Saint-Aubin s'avérait beaucoup trop petit. D'autre part, il y a eu aussi l'aménagement d'un second cimetière qui existe bien sûr encore aujourd'hui, le cimetière dit de la Porte de Muret et qui aujourd'hui porte le nom du cimetière Rapace. Mais l'horizon toulousain va devenir un horizon national quand, en 1787-88, l'archevêque de Toulouse va prendre une place importante dans les décisions prises à la tête du royaume. En effet, en 1787, Lomilbrienne est nommé à la tête de l'Assemblée des notables. Le roi Louis XVI, face aux difficultés financières de plus en plus importantes du royaume, avait convoqué cette assemblée qui regroupait les grands personnages du royaume et dont il attendait l'aval pour en particulier modifier la politique fiscale et financière de la France. Le contrôleur général des finances de l'époque, Calonne, est attaqué assez durement par cette assemblée qui est présidée par l'archevêque de Toulouse. Le contrôleur général Calonne ne se relèvera pas de ces attaques et il devra démissionner. Le 1er mai 1787, sans doute avec l'appui de la reine Marie-Antoinette, l'archevêque de Toulouse est nommé principal ministre d'État du roi. Le but de Lomilbrienne est d'essayer de redresser la situation financière de la France. La monarchie a toujours été régulièrement à court d'argent et il est vrai que la guerre que la France mène contre la Grande-Bretagne pour l'indépendance américaine avait été certes favorable sur le plan militaire et politique, mais par contre avait creusé le déficit de l'État royal. Lomilbrienne réussit à faire enregistrer par le Parlement de Paris des décrets qui rétablissent quelque peu le libre-échange dans le royaume, Ce libre-échange avait été fort contesté quelques années auparavant par ce qu'on appelle la guerre des farines, c'est-à-dire que quand Turgot avait mis fin à toutes les taxations intérieures pour faciliter les échanges, eh bien, il y avait eu en plusieurs provinces des soulèvements qui contestaient cette politique. D'autre part, l'homilie de Brienne prévoit également l'instauration d'assemblées provinciales qui seraient un intermédiaire entre la société et la monarchie pour négocier et discuter en particulier sur les questions fiscales. Le problème, c'est qu'il va se heurter au Parlement. Ceci était chargé d'enregistrer les édits royaux et c'était de plus en plus affirmé contre l'autorité royale depuis le règne de Louis XV. Celui-ci les avait supprimés en 1771 par la réforme Maupoux et remplacés par des assemblées beaucoup plus souples que les parlements traditionnels, mais le jeune Louis XVI avait cru bon en 1774 de les rappeler. Or, ceux-ci s'avèrent des adversaires redoutables. En effet, ils vont s'opposer à la proposition du droit de timbre, du nouvel impôt foncier général que proposait le ministre d'État, puisqu'il avait persuadé Louis XVI de tenir à ce moment-là un lit de justice pour contraindre véritablement les parlements à adopter les nouvelles mesures fiscales. Le 18 août 1787, les parlementaires de Paris en particulier sont exilés à Troyes et en fait, il y a un bras de fer qui débute entre ces représentants autoproclamés de la société française et le pouvoir monarchique. Certains historiens estiment même que le processus révolutionnaire commence sans doute dans ces élites parlementaires et nobiliaires. Entre-temps, l'homilie de Brienne a été nommé archevêque de Sens, mais il a de plus en plus d'opposition pour faire appliquer sa politique. Il est de plus en plus contesté. Par un arrêt du Conseil, le 5 juillet 1788, est annoncé la prochaine convocation des États généraux. Mais à vrai dire, l'homilie de Brienne est usée par un peu plus d'un an de pouvoir. Et le 25 août 1788, il doit se retirer, en laissant une situation financière qui n'a pas trouvé véritablement de solution durant son ministériat. Le 15 décembre, le pape Pie VI va le créer cardinal et il va se rendre pendant environ 2 ans en Italie, où il va visiter bibliothèques et acheter de nombreux ouvrages, car il était un très grand collectionneur. Et finalement, la Révolution va le surprendre comme beaucoup de grands prélats. En 1790, il va prêter serment à la Constitution civile du clergé, mais passant pour être contre-révolutionnaire, il sera arrêté le 9 novembre 1793 et il mourra en prison le 10 mai 1794.